Radio Okapi.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre journal sur Radio Okapi. Voici les principaux titres de l'actualité de ce vendredi. Ituri, vers une paix retrouvée entre les Bagour et ses scellés. Après des années de tensions armées et communautaires, les deux entités du territoire de Djougou renouent avec la cohabitation pacifique grâce aux efforts conjoints des autorités et des leaders locaux. Mbujimayi, pénurie d'eau potable depuis 2 semaines. La régie des eaux évoque un manque d'énergie pour ses installations, tandis que la SNEL signale une panne de transformateur à la sous-station de Tchiboué. Invité du journal, Jean-Pierre Biamungu Zembe, secrétaire exécutif de la Ligue des Indignés pour la citoyenneté responsable. Il appelle les FRDC et les Wazalendo à l'unité pour protéger Uvira face à la menace en 23. Gisèle Cage à la présentation, à l'ouverture de ce journal, direction l'Ituri où les sociétés civiles des Bagourou et ses scellés dans les territoires de Djougou saluent le retour progressif d'une cohabitation pacifique entre leurs communautés. Il y a peu, les échanges étaient encore difficiles, marqués par des tensions liées aux conflits armés et aux clivages communautaires. Selon des sources locales, cette accalmie est le fruit de plusieurs rencontres initiées par les autorités politico-militaires et coutumières afin de consolider la paix. Les détails avec Jean-Claude Loki Dile.
Plusieurs signaux témoignent de ce rapprochement, explique Gédéon Dino, responsable de la société civile de Bagourou. Il cite notamment un grand rassemblement tenu mercredi dernier à Kpadolé, où les notables, les acteurs de la société civile, les responsables des FADC ainsi que les représentants des groupes armés MAPI et CODECO ont tour à tour sensibilisé la population à l'importance de vivre ensemble. Au début du mois de novembre, des chefs coutumiers et des délégués de la société civile avaient aussi pris part à une rencontre à Tchoumian, à une centaine de kilomètres de Bounia. Chacun était chargé de retourner dans son entité pour encourager sa communauté à la non-violence. Pour Gédéon Dino, ces initiatives commencent déjà à porter leurs fruits. Le site d'exploitation d'or, baptisé Morgue, à cause des tueries fréquentes à cet endroit, est de nouveau fréquenté par les membres de toutes les communautés, explique-t-il. Il en est de même des activités champêtres. Pour les acteurs locaux, le défi reste désormais de maintenir cette dynamique et de transformer ces signaux d'apaisement en une paix durable dans cette partie du territoire de Djougou. Bounia, Jean-Claude Loki Dile, Radio Okapi.
Restons à Ituri, l'organisation de défense des droits humains Justice Plus dénonce la violation du site des déplacés des Kingonzi à Bounia par des services de sécurité. Dans un rapport publié ce jeudi 27 novembre, l'ONG affirme que des agents de l'ordre ont pénétré dans ces sites il y a 2 semaines lors d'une opération de bouclage en violation du droit international humanitaire. Une intrusion qui a accentué la psychose parmi les populations vulnérables. Les précisions avec Martial Kizabiamongo.
Les samedi 15 novembre 2025, des militaires, policiers et autres agents des services de sécurité ont procédé à la fouille systématique des abris de déplacés du site des Kigonzé au quartier Mouzipela dans la ville de Bounia. Objectif, rechercher des éléments de la milice des conventions pour la révolution populaire CRP ou leur supplétif qui se cacherait parmi les déplacés. Tout en saluant les soucis du service de sécurité de traquer les miliciens de la CRP, Justice Plus dénonce ces des abus et la violation des droits humains lors de cette opération de bouclage. Selon cette organisation, non seulement cette fouille n'a pas respecté les caractères inviolables d'un site de déplacés, elle a aussi créé un climat de peur et l'arrestation arbitraire des 43 personnes déplacées, dont des enfants, au motif qu'ils seraient des connivences avec la milice CRP. Pour Justice Plus, cette situation pousse plusieurs déplacés à fuir les sites vers les quartiers environnants par peur d'être assimilés à des miliciens. Nous n'avons pas encore la réaction des services de sécurité à ce sujet. Bounia, Martial Kizabiamongu, Radio Okapi.
Le rapprochement se rétablit entre les FRDC et les Wazalendo après une brève période de tension dans la ville d'Uvira. Les affrontements meurtriers de la semaine dernière s'apaisent progressivement selon le porte-parole du secteur opérationnel Sokola Sud au Sud Kivu. Hier, le haut commandement de deux forces ont procédé procéder ensemble à l'inhumation des victimes de ces malentendus tombés sous les balles lors des incidents survenus à Uvira. Un reportage signé Jean Kassami.
La tension était perceptible entre les FRDC et les Wazalendo au point d'en venir aux affrontements entre les deux groupes. Il y a eu au total 7 morts et 19 blessés de part et d'autre, y compris des civils. Hier, la cérémonie d'inhumation de deux Wazalendo ayant succombé au coup de feu a servi comme symbole de réconciliation. Les commandants de la région militaire et son collègue du secteur opérationnel ont participé physiquement et logistiquement aux cérémonies aux côtés de plusieurs officiers Wazalendo et ensemble ils ont fumé les calumets de la paix. Le porte-parole du secteur opérationnel Sukola Sud-Sud Kivu, le sous-lieutenant Bui Rigen, confirme que les relations sont redevenues normales.
Comme la relation s'est rétablie entre les deux parties, nous allons unir tous nos efforts encore une fois de plus, pour repousser cette agression jusqu'à son dernier retranchement.
Des rencontres et des rapprochements se poursuivent entre les deux groupes pendant que les leaders communautaires d'Uvira appellent les Wazalendo à revenir au bon sens, de rester soudés au FRDC pour mener à bien leur lutte commune contre l'agression de la RDC. Bukavu, Jean Kassami, Radio Okapi.
Au Nord Kivu, 12 personnes, dont plusieurs combattants Wazalendo, un soldat de deuxième classe, comparaissent devant le tribunal militaire de garnison de Beni, siégeant en audience foraine à Walikale. Le procès ouvert mercredi dernier dans la salle de réunion de l'administration territoriale porte sur des graves infractions reprochées aux prévenus selon nos sources sur place. Les détails avec Richard Junior Kamunga.
Selon l'acte d'accusation annoncé par le capitaine magistrat Claude Kabeya, représentant le ministère public, les faits pour lesquels ces soldats de deuxième classe et ses co-accusés sont poursuivis avaient été commis entre 2024 et mai 2025. Les 12 sont poursuivis, entre autres, pour détention illégale d'armes de guerre, viol civil, participation à un mouvement insurrectionnel, association de malfaiteurs, dissipation des munitions ainsi que incitation des militaires à commettre des actes contraires à la loi et à la discipline. Lors de l'audience d'ouverture tenue ce mercredi, le tribunal s'est consacré à l'identification des prévenus et à la lecture des infractions mises à leur charge. Pour le ministère public, ce procès devra revêtir un caractère pédagogique afin de servir d'exemple et de dissuasion dans un contexte sécurité fragile. Cette foraine, organisée à l'initiative du gouverneur militaire Somo Evariste lors de son récent passage à Walikale, devrait s'étendre sur environ 2 semaines, indique les sources sécuritaires dans la zone. La société civile du territoire encourage cette initiative. Pour son président Fiston Missona, le décès de l'assassinat de l'un de leurs collègues en 2024 à Ombo est aussi retenu dans ce procès.
Dans la province de l'Équateur, le tribunal militaire de garnison d'Mbandaka a condamné à la peine capitale le policier Wally Molangi José, agent de deuxième classe reconnu coupable du meurtre d'un civil au grand marché de la ville. Ce verdict a été prononcé à l'issue d'un procès en flagrance ouvert mercredi 26 novembre lors d'une audience publique tenue devant la mairie d'Mbandaka. Les détails avec Askanzi Gatayoro.
Le policier Wally Molangi José n'a pas échappé à la sanction qu'a réclamé le député provincial Louison Mumbenga Botuli dans sa motion d'information déposée au bureau de l'Assemblée provinciale. Le crime que ce policier a commis en tuant par balle réelle un homme au quartier Ebenjola dans la commune de Mbandaka lui a valu en ces jours la peine de mort. Selon les témoignages, ce verdict est bien salué par la population de Mbandaka confrontée ces derniers temps à l'insécurité grandissante dans la ville. Pour le Mbandakais, ce verdict sert aujourd'hui d'exemple pour tout agent de l'ordre qui tenterait d'ôter la vie humaine pour une simple dispute. Par ailleurs, dans ce verdict, le sous-commissaire principal de la police, Prince Bolowa Sala, et le chef de la localité Bongondjo, Konde Yende, faisant partie au procès, sont acquittés. Et puis, le policier José Ndioko, en fuite, est condamné par défaut. Il faut rappeler que ce verdict fait suite à une altercation qui a dégénéré au grand marché de Mbandaka entre les policiers et les civils. Les policiers condamnés ayant perdu son sang-froid a tiré à bout portant sur un civil qui voulait simplement se déplacer pour chercher l'argent nécessaire au paiement de la taxe pour la recharge de son téléphone. Cet incident s'est produit lors d'une opération de recouvrement forcé des taxes infligées aux conducteurs de mototaxis et chargeurs de téléphone.
Autre fait marquant au Kasaï oriental, l'eau potable s'est fait rare à Mbujimayi. Depuis près de 2 semaines, plusieurs quartiers sont privés d'approvisionnement. La régie des eaux évoque un manque d'énergie pour faire fonctionner ces installations, tandis que la SNEL, fournisseur d'électricité, signale une panne au niveau du transformateur de la sous-station de Tchiboué. Les explications avec Esther Dalafina.
C'est depuis près de 2 semaines que plusieurs femmes ménagères, les jeunes filles et garçons, avec des bidons jaunes et des bassins, circulent sur des avenues de la ville à la recherche de l'eau potable. Explication de quelques femmes ménagères.
Hier soir, j'ai manqué même pour préparer à cause de l'eau.
Je viens de Kalalangata, je pars chez Moulambampoi pour chercher d'eau.
On s'est réveillé depuis 4 ans pour chercher de l'eau.
Contacté, Didier Mboudilelo, directeur régional de la régie des eaux, évoque le manque d'énergie.
Nous n'avons pas assez courant. Nous fonctionnons avec des groupes électrogènes qui n'ont pas la même capacité que les courants hydroélectriques. Nous fonctionnons 10 heures par jour à Loukélingué pour consommer 1000 litres de carburant. Nous fonctionnons 2h30 à peu près. Or, avec les courants hydroélectriques, vous pouvez produire 8000 mètres cubes par jour.
Pour sa part, Jean-Crispin Mukendi, directeur provincial de la SNEL, annonce une panne sur le transformateur au niveau de la sous-station de la centrale hydroélectrique de Tchiboué.
Il faut le réparer. Dans l'entretemps, nous fonctionnons avec les groupes thermiques, une capacité inférieure qui n'arrive pas à couvrir toute la population, de 18h à 1h30, avec des lestages de quartier.
La SNEL attend donc une nouvelle acquisition pour remplacer les transformateurs tombés en panne, affirme son directeur provincial. Esther Ndalafina, Mbujimayi, Radio Okapi.
À Kinshasa, le ministre de Mines promet des sanctions exemplaires contre toutes les personnes impliquées dans le drame survenu sur le site de Moulon dans la province du Lualaba, où plusieurs jeunes creuseurs artisanaux ont péri après l'effondrement d'un pont de fortune qu'ils ont emprunté pour échapper aux tirs des militaires chargés de sécuriser la zone. Tout en attendant les conclusions des enquêtes en cours, Willy Wantoum assure qu'aucun officier supérieur de l'armée, ni cadre national ou provincial impliqué ne sera épargné, rappelant que personne n'en est au-dessus de la loi. Ces propos recueillis par Blaise Chindani Kambala.
Vous allez voir également certains des blessés, dont un jeune de 18 ans qui était grièvement blessé, qui était à l'hôpital. Ce qu'il faut retenir de ça, c'est encore une fois les responsabilités partagées. Responsabilité de ceux qui ont permis que tous ces jeunes se retrouvent dans ces lieux-là, dans ces conditions-là. Responsabilité de notre administration, encore une fois. On ne peut pas se voiler la face. Responsabilité de ceux-là qui achètent ces minerais, sachant bien que ces minerais sont extraits dans des conditions qui sont celles qu'elles sont. Les responsabilités sont à plusieurs niveaux. Je ne vais pas anticiper sur les conclusions de l'enquête, mais tout ce que je veux vous dire, c'est que rien ne sera épargné. Aucun officier supérieur de l'armée galonné ou étoilé ne sera épargné. Aucun cadre supérieur de l'administration, que ce soit provincial ou national, ne sera épargné. Personne n'est au-dessus de la loi. C'est comme ça que je travaille en étroite collaboration avec mon collègue de la justice pour que justement justice soit faite, que les responsabilités soient établies, que les poursuites soient engagées, parce qu'il faut qu'il en soit ainsi. On ne peut pas continuer à pleurer nos morts à cause de la bêtise humaine, à cause de la corruption, à cause des pratiques qui finalement ne nous honorent pas et qui font que parfois nous ne sommes pas respectés à travers le monde. Cela doit s'arrêter.
Le ministre a également déploré les graves négligences qui caractérisent les sites miniers à travers le pays et appelle à une meilleure sécurisation des zones d'exploitation artisanale pour préserver les vies humaines. À 4 jours de l'entrée en vigueur de la facture normalisée, la Direction générale des impôts, DGI, intensifie sa campagne de sensibilisation alors que des incompréhensions et des résistances persistent chez plusieurs contribuables. L'administration fiscale rappelle les caractères obligatoires de cette réforme et les avantages qu'elle offre pour l'augmentation de recettes publiques, tout en invitant donc les opérateurs économiques à s'y conformer sans tarder. Écoutez à ce sujet Mavalon Nzonzi Trésor, chef de bureau de relations avec les administrations nationales de la DGI, au micro de Jocelyne Moussaoupondé.
Nous rencontrons plusieurs difficultés, notamment celles liées à la résistance des opérateurs économiques qui pensent que la Direction générale des impôts voudrait s'immiscer dans leurs affaires, alors qu'en réalité, ce n'est que un moyen qui nous permettra justement, à travers la transparence des transactions commerciales, que la DGI dispose des informations utiles pour récolter ses impôts. Mais aussi, pour certaines personnes, cela paraît comme un nouvel impôt qui s'ajoute sur les impôts déjà existants. C'est plutôt un procédé qui permettra aux opérateurs économiques susceptibles de récolter la taxe et la valeur ajoutée, d'utiliser qui vont leur permettre à émettre la facture normalisée conformément à la loi. La facture normalisée permettra à l'État d'accroître ses recettes et à première vue, il y a des projections qui tournent autour de 20% des recettes déjà collectées tous les ans qui vont s'ajouter sur les recettes de la TVA. La réforme de la facture normalisée relève du domaine de la loi. Nous sommes déjà sur le chemin des non-retours.
La facture normalisée entre en vigueur ce lundi 1er décembre. La DGI rappelle aux opérateurs économiques qu'en ne disposant pas encore du dispositif électronique fiscal, qu'ils peuvent se connecter à la plateforme via le lien www.edf.dgirdc en un seul mot.cd pour intégrer leur système de paiement et à émettre la facture normalisée.
Actualité internationale.
Le nombre de victimes des inondations et glissements de terrain qui ont frappé la grande île indonésienne de Sumatra a atteint 174 morts, a annoncé ce vendredi 28 novembre un responsable des services des secours, précisant que 80 personnes restent portées et disparues. Selon le chef de l'Agence nationale de gestion des catastrophes, nous avons enregistré 116 décès et 42 disparus dans la province de Sumatra Nord. Le bilan fait également état de 23 morts dans la province voisine de Sumatra Ouest et de 35 décès dont celle d'Aceh.
L'invité.
Notre invité nous vient d'Uvira, Jean-Pierre Biamungu Zembe, secrétaire exécutif de la Ligue des Indignés pour la citoyenneté responsable. Il appelle les différentes unités en présence, notamment les FARDC et les Ouazalendo, à dépasser leurs divergences pour consolider leur objectif commun, empêcher les rebelles de l'AFC M23 de s'emparer d'Ouvira, une ville stratégique pour le Sud Kivu et la RDC en général. Il s'entretient avec Jean Kassami.
Monsieur Biamungu Zembe, Jean-Pierre, bonjour.
Bonjour, monsieur.
Vous appelez aujourd'hui à insister face à la montée de l'insécurité qui secoue une nouvelle fois la ville d'Ouvira. Quels sont les récents événements qui vous font revenir sur ce sujet?
Il y a eu la recrudescence de l'insécurité depuis dimanche qui a mis à mal le climat de confiance entre la FARDC et les Ouazalendo. Depuis le mois de juin, il y a vraiment un accru de confiance entre la FARDC et les Ouazalendo et surtout depuis le départ de Gacita qu'on a soupçonné d'avoir cédé la ville de Bukavu et plusieurs autres territoires. Hélas, aujourd'hui, avec l'arrivée du nouveau commandant Ville, il y a des malentendus, un climat de méfiance contre les Ouazalendo, les incriminants qui n'ont pas la formation, que ce sont des civils armés, et voilà qu'il y a des échauffourées. Nous avons enregistré 14 morts déjà, de part et d'autre, et certains civils innocents, et vingtaine de blessés.
Citer les FARDC et les Ouazalendo réunis pour sauvegarder l'intégrité du territoire, mais aujourd'hui, ce sont les mêmes groupes qui se rentrent dedans.
Nous retrouvons que tous se comportent au même, et cela ne donne pas vraiment un bon climat de confiance entre les deux camps.
Avez-vous également un mot à adresser au gouvernement central de Kinshasa?
Les Ouazalendo sont prêts à attaquer. Certaines unités des FARDC sont prêtes à attaquer. Mais ils sont contrés par les cessez-le-feu. Nous étions à Louvong hier pour le monitoring de l'engouement et des besoins de la population. Nous avons eu des déclarations claires des militaires des FARDC étant au front. Nous sommes en train d'appeler les gouvernements centraux de Kinshasa de ne pas faire la blague, de ne pas prendre cette situation à la légère. Et qu'ils sachent que si Ouvira tombe, c'est toute la RDC qui partira. Nous avons la frontière avec la Zambie, la Tanzanie, le Burundi et le Rwanda. 56% des productions de tous ces pays ont comme marché à Ouvira. Et c'est Ouvira qui distribue à Bukavu, à Fizi, à Maniema, à Lubumbashi, à Kalemie et consorts. Et comme Ouvira est leur centre de gravité pour l'écoulement de leur production, et si Ouvira tombait, tout ce pays environnant, parce que c'est Ouvira qui est l'air débouché, ils seront obligés de coopérer avec l'ennemi. Et là, les relations régionales avec Kinshasa seront coupées. Ça sera axé vers la partie occupée par l'ennemi, parce que les relations internationales sont des intérêts qui comptent. Nous regrettons que depuis ces échauffourées, le président de la République n'a jamais foulé ses pieds à Ouvira pour venir fortifier, moraliser. C'est tout. La première ministre n'a jamais foulé ses pieds ici à Ouvira pour venir donner réconfort aux Azalendo et aux FRDC. Même le budget du pays doit être centré ici pour encadrer les Azalendo, encadrer les FRDC se trouvant au front et autoriser l'offensive. Nous ne serons pas toujours là en train de jouer à la défense pendant que l'ennemi est en train de progresser.
Et quel comportement la population d'Ouvira devrait afficher pour accompagner les efforts de pacification de ces milieux?
La population de l'Est, nous fils d'Ouvira, nous souffrons depuis longtemps. Depuis la guerre de 96, de 98, de 2003 et jusqu'à présent. Il y a des milliers de morts. Il faut voir la situation. Que les gouvernements prennent ces choses au sérieux et qu'il ait pitié de la population qu'il est censé protéger. La population d'Ouvira doit afficher les comportements de neutralité, de conciliation et de dialogue. Parce que les Wazalendo sont nos enfants et les FRDC sont nos compatriotes. Et nous devons travailler ensemble, nous devons le mettre ensemble et ne pas céder aux sympathies des uns ou des autres.
Monsieur Zembe Zembe Biamungu Jean-Pierre, je vous dis merci.
C'est nous qui vous remercions, monsieur Jean Kassami.
C'était Jean-Pierre Biamungu Zembe Zembe, secrétaire exécutif de la Ligue des Indignés pour la citoyenneté responsable. Il appelait les FRDC et les Wazalendo à dépasser leurs divergences pour empêcher les rebelles de l'AFC M23 à s'emparer d'Ouvira, ville stratégique pour le Sud Kivu et la RDC. Nous arrivons à la fin de notre journal. Vous étiez en compagnie de Gisèle Cage à la présentation sur Radio Capi. La mise en onde a été réalisée par Alain Goy, coordination éditoriale Richard Junior Kamunga. Nous vous remercions de votre attention. Restez à l'écoute pour les dernières nouvelles. À très bientôt.